Bienvenue au balado Les Petits Caractères, l'espace de discussion qui vise à poser un regard critique sur les enjeux de consommation qui vous préoccupent et qui me préoccupent également. Aujourd'hui, on parle de l'éco-blanchiment, également appelé greenwashing. Vous l'avez peut-être vécu aussi. Moi, j'aime beaucoup, quand je magasine des nouveaux objets ou autres, prendre un produit qui est responsable, qui est écologique. C'est vraiment une valeur fondamentale pour moi. Mais dernièrement, je suis un peu sceptique à savoir si le produit est vraiment écologique. Donc, je ne suis pas la seule à avoir ce scepticisme-là. Il y a entre autres le Centre québécois du droit de l'environnement qui vient de sortir un rapport sur le sujet et on reçoit un des représentants là, du CQDE, le Centre québécois du droit de l'environnement, Marc Bichet. Bonjour Marc.
Bonjour.
Alors, c'est quoi l'éco-blanchiment climatique?
Oui, alors, en fait, l'éco-blanchiment en général, qu'on appelle en anglais « greenwashing », c'est quand une entité, comme une entreprise par exemple, communique des prétentions qui sont fausses ou trompeuses quant aux attributs environnementaux de ses activités ou de ses produits ou services. Un exemple d'éco-blanchiment, c'est quand l'entreprise Keurig, qui commercialise des capsules de café, a reçu une amende pour plus de 3 millions de dollars pour avoir émis des déclarations sur la recyclabilité de ces capsules qui se sont avérées fausses ou trompeuses selon le Bureau de la concurrence, qui est un organisme fédéral notamment responsable d'enquêter et de sévir en la matière. Donc, apparemment, les systèmes municipaux de recyclage n'étaient pas tous en mesure de recycler ces capsules-là aussi facilement que l'entreprise le laissait entendre. Donc, au Québec, on a, par exemple, l'Office de la protection du consommateur et les différentes provinces ont chacune un cadre juridique qui peut être un peu différent les uns des autres, mais dans tous les cas, les consommateurs sont de plus en plus nombreux à se méfier des déclarations sur les attributs environnementaux des entreprises, de leurs produits et services. Donc ça, c'est l'éco-blanchiment en général. Maintenant, l'éco-blanchiment climatique en particulier, en bref, c'est bien sûr l'application de ce concept aux déclarations à caractère climatique. Donc, on peut penser par exemple aux messages comme net zéro ou carbone neutre, des réductions d'émissions de gaz à effet de serre ou encore l'alignement avec les objectifs de l'accord de Paris quand ces déclarations s'avèrent fausses ou trompeuses. Parce que bien sûr, ce ne sont pas toutes les prétentions climatiques qui sont fausses ou trompeuses. Donc, la question devient comment départager le vrai du faux? Et malheureusement, en ce moment, ce n'est pas très facile.
Oui, mais c'est ça. Comment départager le vrai du faux? Il n'y a pas des règles ou des normes qui sont déjà en place au Québec ou au Canada?
Il y en a, mais elles sont très peu détaillées. En fait, la raison pour laquelle ce n'est pas facile, je dirais qu'il y a deux raisons principales. D'abord, c'est que dans le domaine juridique en général, quand on veut savoir si quelqu'un agit légalement ou non, on trouve la bonne règle et ensuite on essaye de l'appliquer à une situation donnée. Or, en ce qui concerne l'éco-blanchiment climatique, la règle est extrêmement vague. Elle se limite à dire qu'on ne peut pas faire de représentation fausse ou trompeuse, mais sans définir dans ce cas-ci c'est quoi l'éco-blanchiment climatique, sans expliquer ce que ça implique, le concept par exemple de carboneutralité, sans préciser comment on doit s'y prendre pour comptabiliser les émissions de gaz à effet de serre, d'où nos recommandations justement pour mettre de la chair autour de l'os dans ce cadre juridique. Et deuxièmement, le problème qu'on voit souvent, c'est que les entreprises vont trop souvent se livrer à des prétentions très générales sans fournir de détails. Par exemple, une entreprise qui dit que toutes ses activités seront carboneutres d'ici 2050, mais qui ne divulgue pas au public ses émissions de GES actuelles, quelle méthodologie elle utilise pour les comptabiliser, quel est son plan de transition dans les prochaines 5 ou 10 années, ou encore les types de mécanismes de compensation qu'elle compte utiliser pour neutraliser les émissions qu'elle ne peut pas réduire, etc. Tout ça, ça peut devenir tellement vague que ça pourrait être considéré comme trompeur parce que l'entreprise prétend être sur la bonne voie alors qu'elle pourrait très bien ne pas l'être.
Non, c'est ça, les chiffres, c'est facilement manipulable, plus qu'on le pense. C'est pas tout noir ni tout blanc, mais est-ce que le phénomène de l'éco-blanchiment climatique, c'est un problème qui est assez important pour faire un rapport comme vous avez fait? Ou, tu sais, en fait, c'est juste quelque chose d'un peu nouveau, puis peut-être les entreprises n'ont pas encore les outils, mais juste le fait qu'il y ait la volonté de devenir carboneutre ou d'avoir des produits plus durables, bien, c'est déjà une bonne base, puis on devrait se fier à la bonne foi des entreprises pour l'avenir.
L'intention est évidemment bonne, mais ce qu'on veut essentiellement, c'est que les entreprises soient honnêtes. Alors, si ce n'est qu'une intention et qu'elle n'a pas encore fait le travail, mis en place les mesures, les outils, les plans, bien, qu'elles le disent. En fait, la raison pour laquelle c'est important, c'est que les consommateurs se fient aux informations communiquées par les entreprises en matière climatique pour leur choix de consommation et les investisseurs aussi pour leur choix d'investissement et les concurrents aussi pour savoir comment se positionner dans le marché, pour ne nommer que quelques exemples. Or, quand les déclarations sont vagues ou ne sont pas justifiées adéquatement, que ce soit intentionnellement ou non, toutes ces différentes décisions par les différentes parties prenantes peuvent être faussées alors qu'on est en contexte de crise climatique. Donc, encadrer adéquatement l'éco-blanchiment climatique, ça peut permettre de fournir au public un portrait plus clair des progrès réellement accomplis dans la lutte contre les changements climatiques et ça peut aussi permettre d'assainir les marchés pour le bénéfice des entreprises entre elles.
Puis est-ce qu'il y a des initiatives en ce moment pour mieux encadrer l'éco-blanchiment au Québec et au Canada? Parce que votre rapport, c'est plus pour mettre en lumière la situation.
En fait, il y en a beaucoup et c'est justement un des enjeux, c'est qu'il y a différentes normes, différents standards qui existent à l'international par des associations, donc de façon volontaire. Il y en a qui sont par l'organisme des Nations, en fait l'ONU, par les Nations Unies. Il y en a différentes, des protocoles, par exemple, comment comptabiliser les gaz à effet de serre. Mais en ce moment, si une entreprise choisit un de ces différents outils et dit publiquement qu'elle s'y conforme et elle le fait réellement, elle n'a pas encore l'assurance que c'est suffisant, qu'en faisant ça fait en sorte qu'elle est garantie de ne pas se livrer à de l'éco-blanchiment climatique selon les autorités québécoises, canadiennes. Et c'est ça justement qui manque, c'est de savoir, par exemple, lesquels de ces différents programmes, de ces différentes initiatives est considéré comme étant suffisant. Ou encore, on a un grand problème d'une entreprise qui va simplement utiliser des mots comme carbone neutre sans pointer vers un de ces standards qui existent déjà. Donc, on ne sait pas si elle se conforme à quelque chose qui existe déjà ou si elle a inventé sa propre recette ou quoi que ce soit. Donc, c'est un peu le Far West en ce moment.
Mais c'est ça, j'ai l'impression que autant les consommateurs que les entreprises sont comme laissés à eux-mêmes.
C'est malheureusement en fait un peu le cas en ce moment, dans le sens où il y a beaucoup de choix qui sont faits et il y en a qui sont peut-être plus discutables que d'autres. Et pendant qu'on attend un cadre juridique un peu plus clair, justement, le public a de la difficulté à s'y retrouver et les entreprises elles-mêmes ont de la difficulté à savoir comment s'y comporter. Je peux peut-être ajouter aussi qu'il y a même un risque qu'une entreprise qui est plus prudente va voir qu'il y a quand même un certain risque, qu'il y a une augmentation du nombre de plaintes, elle ne veut pas avoir un scandale qui lui explose en plein visage. Donc, elle va peut-être faire des actions sérieuses en matière climatique sans en parler. Et justement, on veut éviter ce phénomène-là. On veut éviter que les entreprises aient trop peur, se refroidissent, en fait, par peur justement de froisser ou de considérer par le public qu'elles se livrent à l'éco-blanchiment climatique. Donc, c'est la raison pour laquelle un cadre plus clair permettrait justement aux entreprises non seulement de continuer de faire preuve de leadership, mais aussi de le communiquer pour que ça soit clair pour tout le monde où nous sommes rendus.
Puis vous proposez un encadrement dans votre rapport. C'est quoi cet encadrement-là?
Simplement de faire en sorte que ça soit clair lesquelles des différentes méthodologies, initiatives, outils s'appliquent de façon obligatoire au Québec, au Canada. Parce qu'en ce moment, si un membre du public voit une déclaration suspecte, fait une plainte, par exemple, à une autorité publique comme le Bureau de la concurrence au Canada, et ensuite l'entreprise donc doit faire face à cette plainte, on ne sait pas d'avance aujourd'hui, ni l'entreprise, ni le public, comment le Bureau de la concurrence va enquêter, quelles mesures il va utiliser pour considérer si c'est justifié ou non telle ou telle déclaration. Donc, l'idée, c'est vraiment de simplement pointer, par exemple, vers un ensemble de règles qui existent déjà, par exemple, soit à l'international ou même quelque chose qui serait déjà existant au Canada pour dire voici ce qui s'applique de façon obligatoire.
Vous proposez un cadre là, en quatre étapes. Voudrais-tu m'expliquer ces quatre étapes-là?
En fait, ce sont les quatre principes sur lesquels devrait se fonder tout cadre juridique qui prétend bien encadrer l'éco-blanchiment climatique. Le premier principe, c'est la qualification. Alors, les entreprises devraient être, selon nous, tenues de qualifier toutes leurs allégations liées au climat en fonction, par exemple, de leur portée, des règles d'attribution. Donc, ça veut dire, est-ce que c'est l'entreprise ou son fournisseur à qui on attribue telles et telles émissions de gaz à effet de serre? ou encore l'échéancier, donc est-ce que c'est d'ici 5 ans ou d'ici 2050, il y a quand même une bonne différence entre les deux, et les caractéristiques des mécanismes de compensation pour les émissions qui restent. Donc, tous ces différents détails devraient être directement intégrés dans les déclarations climatiques plutôt que quelque chose de vague comme simplement notre entreprise est net zéro aujourd'hui. Ce n'est pas clair qu'est-ce que ça veut dire en ce moment. Donc, la qualification, c'est énormément important. Ensuite, le deuxième principe, c'est la justification. Les entreprises devraient être soumises à des règles spécifiques et claires qui identifient c'est quoi les types d'informations qui sont nécessaires pour justifier adéquatement les déclarations liées au climat. C'est lié aussi au troisième principe qui est la divulgation, parce que ce n'est pas suffisant selon nous qu'une entreprise ait en main ces informations pour justifier et qu'elle ait à les donner, par exemple, au bureau de la concurrence quand il y a une enquête, mais qu'elle les divulgue carrément au public directement au moment même où elle se livre à des déclarations climatiques. Comme ça, le public, les concurrents, toutes les parties prenantes savent dès le début ce qu'il en est quant à telle ou telle déclaration. Et le quatrième principe qui s'adresse plus aux autorités publiques directement, c'est d'être plus proactive, donc plutôt que de se fier principalement aux plaintes du public, que les organismes chargés de l'application de la loi aient à surveiller elles-mêmes de façon proactive les déclarations faites par les entreprises. Et ça implique probablement d'avoir leurs propres équipes dédiées, de développer leurs propres expertises parce que ça reste des sujets quand même assez techniques quand on commence à creuser.
Puis, je comprends que l'objectif, c'est pas de pointer du doigt les entreprises. Là, en t'écoutant, je vois que vous voulez autant venir en aide aux entreprises qu'aux consommateurs. Mais en tant que consommateur, si on fait face à un produit qu'on est sceptique par rapport à la légitimité de ce qu'il déclare sur ses déclarations climatiques, à qui on peut en parler pour faire notre devoir de citoyen, là, où est-ce qu'on peut le déclarer?
C'est sûr que je suis tout à fait d'accord que notre objectif, ce n'est pas du tout de pointer du doigt une entreprise ou un domaine en particulier. On n'essaie pas de faire en sorte qu'il y ait massivement des plaintes là, du jour au lendemain. Bien au contraire, on veut que le cadre juridique soit clair pour que tout le monde sache à quoi s'attendre. Mais si effectivement, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui voit une déclaration qui semble suspecte, c'est possible déjà dès maintenant de s'adresser, par exemple, au Bureau de la concurrence du Canada, qui est l'agence qui est chargée de la protection du consommateur au niveau fédéral. Sinon, au Québec, il y a l'Office de la protection du consommateur. Et il y a aussi tout ce qui concerne pour les investisseurs la réglementation des marchés financiers. Donc, à ce moment-là, on peut s'adresser à l'Autorité des marchés financiers du Québec, par exemple. Il y a aussi tout ce qui concerne la publicité. Donc, il y a un organisme d'auto-réglementation de l'industrie publicitaire qui s'appelle les normes de la publicité du Canada. Donc, ça aussi, c'est une ressource qui pourrait être pertinente. Et au-delà des plaintes ou des enquêtes spécifiques, de façon plus générale, c'est possible aussi de carrément demander au gouvernement fédéral et provincial de renforcer le cadre juridique et même, si vous voulez bien, leur demander d'adopter carrément les recommandations dans ce rapport du CQDE. Et si jamais il y a des choses qui ne sont pas claires dans tout ça, parce que c'est assez technique souvent, on peut aussi s'adresser directement au CQDE. Vous pouvez nous poser vos questions et on va faire ce qu'on peut pour vous orienter pour essayer de répondre à vos questions.
Puis, en faisant votre rapport, là, en fait, ça fait combien de temps que vous travaillez à faire ce rapport-là? Puis, est-ce qu'il y a des faits qui vous ont surpris?
C'est un rapport récent qui est quand même à jour. Il a été publié en fin septembre de cette année et c'est à jour, je dirais, nos informations ont été mises à jour au mois d'août. Donc, c'est quand même un rapport très à jour en ce moment. On a travaillé là-dessus, surtout mon collègue Maître Julien Beaulieu, qui est l'auteur principal du rapport, au courant de cet été 2022. Et ce qui nous a surpris, en tout cas ce qui m'a surpris moi, c'est à quel point c'est un phénomène qui prend beaucoup d'ampleur et rapidement. Dans les dernières années, on a vu des douzaines de plaintes et même de litiges judiciaires devant différentes instances un peu partout dans le monde. Déjà ici au Québec et au Canada, il y en a eu trois, quatre, en fait, je dirais, au Bureau de la concurrence ces derniers mois. Donc, c'est quelque chose qui évolue quand même assez rapidement, d'où la pression, je dirais, sur les autorités publiques pour agir rapidement, pour mieux encadrer le tout.
Bien, de ce que je comprends, c'est que L'effet de l'éco-blanchiment climatique, c'est pas une finalité en soi. On n'aura pas à rester sur nos gardes toute notre vie. Il y a des cadres qui vont pouvoir être mis en place pour aider autant les consommateurs que les entreprises.
C'est tout à fait possible. Le cadre juridique existe en ce moment, donc c'est déjà en théorie illégal de se livrer à de l'éco-blanchiment climatique. Ce que nous souhaitons, c'est que ça soit plus clair et plus détaillé pour que tout le monde sache de façon plus précise à quoi s'en tenir.
Puis je terminerai avec, si tu as des exemples de choses qui se font ailleurs dans le monde qui vont dans le sens de lutter contre l'éco-blanchiment climatique, par exemple en France, je pense qu'il y a un code écologique. C'est quoi ça? Puis est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait répliquer ici?
Oui, en Europe, ils travaillent là-dessus depuis un certain temps déjà maintenant. En France, comme tu le mentionnes, il y a le code de l'environnement qui est déjà bien avancé. D'ailleurs, ce qu'on voit en Europe en ce moment, c'est cette idée de simplement rendre illégal toutes les différentes formules qu'on peut voir, carbone neutre, net zéro, etc., tant qu'il n'y a pas une règle claire, une norme spécifique qui a été adoptée par un gouvernement. Mais on veut surtout éviter qu'une entreprise décide de façon un peu trop prudente, je dirais, de faire des actions importantes, mais de ne pas en parler par peur justement qu'il y ait un scandale. Pour éviter ça, selon nous, la meilleure solution, c'est d'avoir un cadre qui est très clair et qui est très détaillé. Comme ça, l'entreprise peut savoir, bon, ben, je me conforme déjà à telle norme. Et selon le nouveau cadre juridique qui s'en vient, c'est cette norme-là qui s'applique. Donc, je suis déjà correct. J'ai simplement besoin de continuer à faire ce que je fais ou d'apporter des petits ajustements. Alors qu'une entreprise qui, en ce moment, justement, se livre à de l'éco-blanchiment climatique, mais avec impunité parce que ce n'est pas clair si ce qu'elle fait est correct ou non, qu'on lui fasse rendre des comptes, qu'elle divulgue, etc., pour qu'on sache si réellement les progrès qu'on pense qui sont sous le capot soient réellement là.
Super. Et si on veut rester au courant de ces démarches-là et de vers où ça s'en va, où est-ce qu'on peut vous suivre?
Alors, surtout sur notre site web cqde.org, je dirais que c'est la source principale d'information pour tout ce qui concerne ce sujet et bien d'autres en matière de droit de l'environnement au Québec.
Excellent. Merci beaucoup, Marc.
Ça me fait plaisir. Bonne journée.
Bonne journée. La chronique d'aujourd'hui est avec Joanne de Options Consommateurs. Allô, Joanne.
Allô.
J'ai envie de reprendre mon pouvoir en tant que consommatrice. En ce moment, je vois les prix augmenter partout. Et des fois, c'est complètement hors de mon contrôle. Il faut que je l'achète. Mais à l'épicerie, je sens que je pourrais mieux faire les choses. Puis, tu as des suggestions pour moi?
Ben oui, tout à fait. Tu sais, moi, ce que j'avais envie de faire, c'est, je me suis demandé quand j'ai vu les prix qui augmentaient, tout ça, j'ai essayé de faire quelques corrélations ouais. avec une période que mes grands-parents ont connue, puis qui était beaucoup plus difficile, puis d'aller voir. Qu'est-ce qu'ils faisaient dans ce temps-là pour s'adapter?
Puis quand on se compare, on se console en plus.
Exactement. Exactement. Ils ont connu les grandes guerres, puis ils ont connu aussi la Grande Dépression ouais. dans les années 30. Et puis, tu sais, de remettre les choses dans ce contexte-là, puis de voir, bien, écoute, c'était quand même des personnes, tu sais, il y avait des familles de 10 enfants à nourrir, des salaires très, très peu élevés. Mm. Fait que, a fallu qu'ils exercent leur esprit de débrouillardise. Puis j'avais envie de décortiquer ça, prendre les qualités qu'ils ont dû développer comme humains, puis qu'on ramène ça dans le contexte d'aujourd'hui, puis voir comment on peut appliquer ça aujourd'hui. Alors, juste pour vous faire une petite idée, là, ma grand-mère, qui était dans une famille nombreuse, pour aider sa mère, a commencé à faire des ménages chez les mieux nantis pour 10 sous la journée. La livre de beurre, à cette époque-là, coûtait 10 sous. On peut donc en déduire qu'une livre de beurre, c'était une journée de travail pour un enfant.
Fait
que moi, ça me console un petit peu aujourd'hui de voir que la livre de beurre, qui coûte entre 4 à 6 $ à peu près, selon s'il y a des spéciaux ou pas, n'est pas le prix que moi, je travaille à l'heure.
Mm-hmm. Puis surtout que tu ne gagnes pas une journée, là.
Fait que je m'amène avec un petit peu plus de courage, puis en me disant, ben mon cas, il n'est pas désespéré, je devrais trouver des solutions à ma portée.
Ouais. Mais en même temps, c'est sûr que c'est... l'objectif, c'est que la qualité de vie, elle augmente toujours. Là. Fait que, c'est pas qu'on est chanceux. Ben oui, on est chanceux d'avoir une belle qualité de vie aujourd'hui, mais c'est l'objectif aussi, là, que ça soit toujours au mieux. Là.
C'est ça. Fait que si on regarde les caractéristiques qu'il y avait à cette époque-là, évidemment, une des choses qui a changé beaucoup, les gens savaient à peu près tous cuisiner. Ouais. Ils connaissaient les bases de la cuisine, ce qui est un petit peu plus difficile. Aujourd'hui, tu sais, on est porté, on a beaucoup plus d'offres sur le marché. On peut aller facilement vers ce qui est déjà préparé à l'avance.
Mais oui.
On va essayer de sauver du temps aussi en achetant des légumes déjà pré-coupés. Il y a toutes sortes de trucs qu'on peut... Mais tout ça a un prix aussi. Mm. Évidemment, tous ces genres d'aliments-là, les trucs qu'on peut prendre directement du congélateur, envoyer au four, ben ça coûte plus cher. On paie le temps que les gens ont mis à le préparer.
Oui, puis aussi, on perd du savoir-faire. on perd de la débrouillardise. J'ai pris au secondaire, il y avait une option pour secondaire 4-5, choisir soit le cours de sciences ou un cours de cuisine à mon école. Je sais que c'est pas toutes les écoles qui proposent ça. Puis j'ai pris le cours de cuisine, puis je te jure, c'est le cours de mon secondaire que j'utilise le plus fréquemment.
Je m'en doute
c'est
pas.
Les bases de la cuisine, là. Je suis vraiment pas une cuisinière hors pair, mais tu sais, je peux faire ma pâte, je peux faire certaines choses. Puis il y a eu beaucoup de critiques sur les cours d'économie familiale. Là. Moi, en tout cas, dans mon entourage, je l'entendais. Ah, tu sais, on nous apprend dans les cours d'économie familiale à faire du macaroni puis à coudre, à recoudre nos vêtements. Mais c'est pas ça, les finances. Mais ça, là, a un gros impact sur vos finances. Puis c'est dans des moments où l'économie est plus difficile, comme en ce moment, qu'on s'en rend compte.
Et c'est ça aussi, tu sais, de s'intéresser aux bases de la cuisine. D'aller lire, d'aller apprendre avec Internet. On a accès à une foule d'informations. Bien, ça nous permet, tu l'as mentionné au début, de reprendre du pouvoir.
C'est ça.
De reprendre une partie de notre pouvoir d'achat.
Puis on le voit avec le podcast, puis bien, toi, tu travailles tout simplement là, avec les droits des consommateurs. Il y a beaucoup de responsabilités qui sont mises sur le consommateur, mais en même temps, on essaye le moins possible qu'il y ait à réfléchir puis qu'il y ait à développer son autonomie. T'sais. Mais je pense que si on veut pas se faire avoir, c'est le temps d'écouter des recettes de grand-mère puis de travailler là-dessus.
Ben j'en ai une pour toi. La première, c'est à l'époque, jamais une ménagère ou une dame qui s'occupe d'une famille de 10 enfants n'aurait pensé à acheter du pudding tout fait ou des trucs industriels, là, la petite poudre chimique là, qu'on mélange au batteur puis qui donne du pudding. Non, elle faisait tout elle-même. Il y avait une petite recette que je me rappelle très bien, qui était très simple. Ça s'appelle du blanc mangé. Certaines personnes vont peut-être éveiller certaines odeurs de leur mémoire. On prenait tout simplement une tasse de lait avec une cuillerée à soupe de fécule de maïs qu'on faisait réchauffer doucement. On ajoutait un peu de sucre ou de miel ou de sirop ou d'essence de vanille, d'amande, quelques épices. Puis ça réchauffait, on laissait refroidir, on versait dans des belles petites coupes, puis ça faisait un pudding. Ça prenait environ 5-6 minutes de faire ça.
C'était bon?
C'était très bon.
Oui.
C'était très bon, on variait les saveurs. Puis c'est ça, tu sais, elle savait improviser. Elle savait être créative. Être créative, ça veut dire que quand on pense cuisine, est-ce qu'on est obligé de suivre la recette, là, pas à pas, telle qu'elle est écrite dans le livre? La réponse, c'est non. Il faut savoir être capable d'adapter la réalité à ce qui est possible. À cette époque-là, il y avait des aliments qui étaient non seulement trop dispendieux, non accessibles, mais carrément pas disponibles.
Bien, c'est quasiment ce qu'on a vécu cette année aussi.
Exactement.
Si c'est pas des restrictions budgétaires, ça a été juste la chaîne d'approvisionnement qui a été extrêmement touchée puis qu'il y avait certains produits qu'on pouvait pas avoir.
Bien, tout à fait. Alors, ces personnes-là ont dû s'adapter, modifier les recettes. Ça veut dire, il manque un ingrédient, parfait, qu'est-ce que je fais pour le remplacer? Qu'est-ce que je fais pour en inventer des nouveaux? Qu'est-ce que je fais pour être capable de nourrir mon monde? Puis ça a donné de la belle créativité. On n'a qu'à penser au pudding chômeur à cette époque-là. On en mange encore du pudding chômeur. Et ça vient de cette période-là. Le pain perdu.
Mais oui.
Le pudding au pain. C'est une autre.
Le pain est un ingrédient populaire en temps de dépression et récession économique.
Ben oui, c'était ça qui était disponible. On fait avec qu'est-ce qu'on a. Et on n'hésite pas à remplacer. On voulait faire. Tu sais, si tu veux faire un gâteau, il n'y a plus de beurre qui est disponible ou le beurre était rationné. Alors, on a appris à faire des gâteaux avec du Saint-Doux ou avec de l'huile, remplacer les gras par autre chose qui était disponible sans altérer nécessairement le goût. Une autre caractéristique aussi qu'on peut très bien appliquer aujourd'hui, c'est qu'il récupérait tout. Il ne jetait à pratiquement rien. Tout était récupérable. Il y a trop de concombres, puis c'était au jour le jour. La culture des gens, jamais on aurait pensé à « Oh mon Dieu, il y a les plats dans le milieu de la table, là, il y a trop de ci, il y a trop de ça, on va prendre ça, puis on va jeter ça. Mm. » Jamais, jamais, jamais on aurait jeté de la nourriture. C'était trop précieux.
C'est encore trop précieux. C'est pas parce qu'on est rendu dans une société où on produit beaucoup plus que la planète peut nous offrir plus, là.
Totalement, totalement. Trop de concombres, on prend les surplus de concombres inutilisés, on fait des cornichons, on marine, on met ça en conserve.
Je me suis demandé pendant de nombreuses années si des concombres et des cornichons, c'est la même chose. Tiens, me le confirmer.
Il y avait des façons aussi de substituer les farines de blé qui parfois étaient difficiles à trouver. Fait qu'on a appris à bien comprendre la substitution des farines, comment utiliser la farine de sarrasin, la farine de maïs, la farine de seigle. L'autre particularité aussi, c'est que les gens étaient très respectueux des saisons dans lesquelles ils vivaient. On apprenait à cuisiner avec ce qui était disponible dans le moment.
Puis c'est ça que les grands chefs ils font aussi, là. Fait que oui, qu'on soit en période que c'est plus difficile financièrement, puis juste l'économie en général, mais les grands chefs, c'est littéralement ce qu'ils font, où ils vont aller prendre les aliments qui sont selon les saisons, parce que c'est les meilleurs, c'est les plus frais, il y a eu moins d'importations, moins d'agents de conservation. Fait que juste de la logique qu'on dirait on a perdu avec la désensibilisation de aller faire notre épicerie, faire à manger, puis de tous les produits qui sont déjà faits puis qu'on peut congeler à l'année, là.
Moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est informez-vous, restez curieux, allez voir qu'est-ce qui se passe ailleurs.
Super, ben je me sens beaucoup plus outillée. J'espère qu'à la maison aussi, ça vous a donné envie de soit ressortir vos anciennes compétences culinaires que vous aviez peut-être mis de côté avec tous les services d'accommodation, de livraison possibles. Ou si vous avez des recettes que vous aimeriez nous partager, ben n'hésitez pas à nous les écrire, à nous écrire sur nos réseaux sociaux. Sinon, merci beaucoup de votre écoute. Puis merci, Joanne, de m'avoir accompagnée aujourd'hui.
Ça me fait plaisir.
C'était tout pour aujourd'hui. On se dit à la prochaine à un nouvel épisode des Petits Caractères.